Vincent Bullet, c'est un personnage de roman. C'est quelqu'un qui a en fait plus de nature dans son sac. Et ben, dans sa peinture, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire, c'est une peinture beaucoup plus complexe qu'il apparaît. Moi, j'aime beaucoup cette maison, la maison de l'artiste. C'est ce tableau qui est quand même, moi, j'ajouterais un peu métaphysique. Hein. Il y a une sorte d'harmonie classique dans les rapports de couleurs, dans l'apparence de la maison. L'impression que ça donne, c'est quelque chose de réfléchi, de grave. Dans les derniers travaux de Bullet, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, sérieusement, c'est la sauvagerie du travail. C'est le côté très libre de ce travail et quelque chose de très sauvage. Et ça me plaît beaucoup. Alors, effectivement, on retrouve dans ce travail récent, par exemple, je pense précisément en vous disant ça, à ce tableau de Gros Temple. C'est un tableau, effectivement, c'est un paysage marin, d'un étang, mais il y a quelque chose de très abstrait, comme disait Vincent Bullet, mais aussi très sauvage dans les couleurs, etc. Et moi, finalement, par goût, le sujet disparaît un petit peu. Ce que j'aime bien, c'est la sauvagerie de la peinture elle-même.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ce personnage de roman, comme le décrit malicieusement son ami Bernard Vidal, a en effet toujours eu plus d'un tour dans son sac. Peintre trompeur, dit de lui Philippe d'Agen, qui lors d'une précédente exposition le qualifiait même de subversif. Un qualificatif ressemblant fort à un compliment sous la plume de cet historien de l'art exigeant. Vincent Bullet, dont l'œuvre vibrante démontre l'absolue liberté, est un artiste enthousiasmant, à la fois cérébral et charnel, à qui le musée Fabre à Montpellier, sa ville natale, consacre une magnifique rétrospective. Et c'est jusqu'au 6 octobre. Après un apprentissage classique aux Beaux-Arts de Montpellier et l'immersion dans l'œuvre de ses peintres de prédilection, Matisse, Bonnard, Cézanne, Dufy, Bullet a fondé avec d'autres au début des années 70 le groupe d'abstraction radicale Support Surface, groupe qu'il quittera peu de temps après, ne trouvant pas dans cette abstraction pure et dure l'émotion, la poésie, la sensualité que lui procure toujours son regard sur la nature. Et depuis, il trace sa route en dehors de toute chapelle, à la fois figuratif et abstrait, maniant les couleurs avec une jeunesse et une fougue sauvage. Et d'ailleurs, cette rétrospective à Montpellier s'intitule « Chemin de traverse », c'est-à-dire ceux qu'il a toujours empruntés. Bonsoir Vincent Bullet.
Bonsoir.
Heureuse de vous recevoir.
Moi aussi, je suis très content d'être là.
Une rétrospective à ce stade de votre vie, de votre travail, c'est quoi? C'est un grand bonheur, j'imagine, mais est-ce que c'est aussi parfois déconcertant de poser un regard sur son œuvre passée? Est-ce qu'on s'y reconnaît toujours? Est-ce que de la première à la dernière ligne tracée sur une toile, vous êtes resté le même?
Alors c'est très difficile de répondre à ça, mais la première difficulté, c'est de ne pas considérer une rétrospective, surtout à mon âge, à 81 ans, comme la fin de quelque chose, mais comme une épreuve à traverser parmi tant d'autres,
épreuve.
Et de pouvoir continuer à travailler.
Épreuve, et, vous dites?
Et ensuite, à partir justement de cette rétrospective, réfléchir sur ce qu'on en a fait, essayer de comprendre s'il y a un fil rouge, une logique qui parcourt tous ces chemins de traverse, si ce sont simplement des impulsions momentanées, parce que tous les êtres sont divisés, nous sommes tous comme ceci et comme cela. Mais ceci étant dit, je crois que j'ai toujours essayé d'écouter mon instinct, et c'est ce qui m'a, j'allais dire, protégé. Alors qu'on peut penser qu'écouter son instinct est dangereux. Eh bien, je pense que c'est le contraire.
En tout cas, dans ce pays, la France, Vincent Bullet, où l'on aime toujours coller des qualificatifs, classer les gens dans des petites cases bien propres, vous avez toujours brouillé les pistes. Je parlais de la façon dont Philippe d'Agen parle de votre œuvre. C'est très intéressant parce qu'il dit que dans ce que vous avez fait, il y a toujours tout et son contraire en même temps. Et ça, je trouve que pour un artiste, c'est très intéressant. Ce qui veut dire que vous tentez quelque chose, vous le rattrapez. Alors, vous appelez ça instinct. Ça a toujours été comme ça pour vous, inclure plutôt qu'exclure?
Alors d'abord, je ne regrette pas d'avoir fait de la peinture abstraite à un moment donné de ma vie, parce que d'abord, je l'ai répété souvent, ma génération a considéré l'abstraction comme un progrès objectif, comme une sorte de, j'allais dire, de quelque chose d'incontournable dans le XXe siècle. Et lorsque j'ai regardé l'accrochage fait par Michel Hilaire et Stanislas Collodier de mes tableaux abstraits, eh bien, je dois vous avouer que j'étais très content, j'ai trouvé que j'étais un bon peintre abstrait. Mais pourquoi ça ne m'a pas suffi? Pour de multiples raisons, parce que il y a dans les groupes, il y a toujours des tiraillements. Et je suis par nature très indépendant. J'aime pas me soumettre à, c'est comme ça. Et donc, j'ai quitté le groupe. Et en quittant le groupe, j'ai découvert que j'avais envie de faire autre chose. Alors, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, parce qu'il ne s'agissait pas pour moi de revenir à la peinture figurative que j'avais pu faire précédemment, mais d'essayer d'inventer quelque chose. Et j'ai inventé d'abord quelque chose en faisant craquer le cadre des tableaux de support surface. C'est-à-dire, je les ai en peignant, je les ai en quelque sorte disloqués, je les ai fait exploser. Et alors, ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que, hier, par exemple, j'étais encore à l'atelier et j'ai fait un tableau sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est l'étang de l'or,
qui revient souvent.
Et j'ai fait un tableau sur la pluie d'été parce que je voulais qu'il pleuve et il pleuvait pas. Et alors, j'ai fait un tableau qui s'est appelé, dans ma tête, la pluie d'été. Et qui est un tableau complètement abstrait. Mais il faut que je me garde aussi de cet exercice, parce que peut-être suis-je parvenu à trop bien le faire et il faut que je m'en méfie.
En tout cas, il y a des influences que l'on rencontre, vos peintres aimés, on les retrouve, on va parler peut-être de Dufy, mais je voulais qu'on commence cette émission avec Matisse et sa voix.
Lorsque je peins ou je dessine, j'éprouve un besoin de communion intime avec l'objet qui m'inspire, quel qu'il soit. Je m'identifie à lui et c'est ce qui crée une expression sensible qui est le fond de mon art. La richesse des moyens n'est jamais suffisante si l'artiste ne peut lui faire exprimer la tendresse intérieure qu'il éprouve pour tout ce qui existe.
Est-ce que vous reprendriez mot à mot ce que vient de dire Matisse pour votre inspiration à vous, Vincent Biolay?
Je serais très heureux si je pouvais le reprendre, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Matisse et je suis en même temps très conscient de la, j'allais dire, de la supériorité extraordinaire de cet artiste. Mais il m'a considérablement servi. Lorsque je suis revenu, comme on dit, à la figuration, c'est après avoir vu justement à New York les grands tableaux peints entre 1911 et 1916, comme la leçon de piano, les Marocains en prière, l'atelier rouge. Et mes camarades avaient vu dans ces tableaux le point de départ de l'abstraction. Et moi, j'y ai vu au contraire une sorte de marchepied pour revenir à la figuration, mais une autre figuration. Et avec un souci de monumentalité et d'exaltation de la couleur très grand. Et il y a dans l'œuvre de Matisse une ferveur extraordinaire. Alors, ma génération s'est un peu détournée des tableaux peints après 1919, de toute la série des odalisques, de ce qu'il peint à Nice, avec une très très grande sensualité. Alors, il ne faut pas considérer ces tableaux en les mettant les uns à côté des autres, parce qu'ils peuvent non pas se nuire, mais un peu s'autodétruire, parce qu'ils reprennent une thématique un peu identique. Mais lorsqu'on les regarde un par un, ils sont d'une incomparable sensualité. Et le moindre coup de pinceau est toujours contrôlé et posé avec une sorte de ferveur et de sensualité extraordinaire. Matisse n'a pas du tout le côté sportif de Dufy. Il détestait Dufy. Il disait, Dufy me prend mes sujets, et puis il les sabote, il les démolit. Alors que c'est pas du tout la même question, c'est pas du tout, comme on dit aujourd'hui, la même problématique. Et moi, j'aime beaucoup Dufy, mais c'est pas le même monde. Ce sont deux êtres très très différents l'un de l'autre.
Et pourtant, vous aimez les deux, Vincent Biolay, mais quand on voit par exemple votre travail sur les fenêtres, on peut effectivement toujours penser à Matisse. Cette ouverture sur la couleur, sur la lumière, ça a été aussi une source d'inspiration pour vous.
Oui, puis ensuite, j'habite dans une maison où il y a de très très grandes fenêtres où on ne peut pas mettre de tableaux à cause de ça.
Et alors, ça remplace.
Alors, les fenêtres remplacent des tableaux. Et alors, j'ai transformé mes fenêtres en tableaux, en peignant les fenêtres de ma maison qui s'ouvrent sur un jardin qui change beaucoup selon les saisons. Et ça a été quelque chose de tout à fait un sujet inépuisable pour moi. Et Michel Hilaire et Stanislas Collodier ont eu justement l'intelligence d'ouvrir l'exposition par trois fenêtres, l'une peinte en 65 à Saint-Tropez, une autre peinte dans les années 70, après les séjours que je faisais en Lozère, et une tout à fait récente qui a été montrée chez Marie-Hélène de la Forêt d'Yvonne il y a 2 ans.
Donc une avant support surface, une pendant support surface et une après.
Oui, la seconde à la sortie de support surface. Mais enfin, entre voilà. Et il y a beaucoup de tableaux de support surface qui peuvent faire penser à des fenêtres.
Alors il y a une autre influence, et même très proche pour vous, c'est celle de Jean Hugo, on l'écoute.
Quand je commence un tableau, ce qui m'amuse le plus, c'est d'après le croquis fait d'après nature, souvent, c'est le découpage des surfaces et leur placement dans le tableau. Alors, le tableau que j'ai devant moi, qui est fait d'après un croquis que j'ai fait cet automne, représente le colombier d'un mas des environs. J'ai forcé un peu le jaune du pan de mur au soleil, j'ai assourdi le vert de la prairie au premier plan, et j'ai un peu forcé le bleu du ciel. Et maintenant, je vois qu'il faut que je raccourcisse un nuage qui se confond avec le branchage de 2 arbres et qui nuit à la profondeur du tableau. Mais tout de même, la peinture, c'est un combat. Faire un tableau, il faut se battre entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Picasso qui m'a dit ça un jour. Les couleurs viennent toutes seules. C'est vrai.
Le paysage n'est qu'un prétexte.
Oui. Oui, pour moi, c'est qu'un prétexte.
Vous pourriez aussi bien faire une peinture non figurative?
J'ai essayé, mais jamais pu.
Voilà, vous avez découvert Jean Hugo au musée Fabre de Montpellier.
J'ai découvert, et puis ensuite nous sommes devenus amis, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et sa voix m'émeut beaucoup. J'avais la chance de pouvoir dîner chez lui. Il m'invitait tous les lundis soirs. Et nous causions beaucoup à l'atelier avant d'aller boire un whisky. Et puis ensuite de passer à table où il arrivait toujours très très élégant. Il se changeait pour dîner. Et c'était quelqu'un de très fascinant. Alors là, dans cette interview, une chose qui est très intéressante. Jean Hugo est le contraire même d'un peintre impressionniste. C'est un peintre nominaliste, c'est-à-dire qu'il a inventé toute une grammaire de forme, de rythme, une véritable syntaxe dans l'organisation de la surface, un peu semblable à celle des primitifs qu'il devait aimer beaucoup. Il a sûrement regardé Fouquet, Bourdichon, les primitifs italiens, et c'est un peintre finalement très proche de l'abstraction par sa façon d'organiser la surface et de traiter la couleur. Son père, qui était un bon peintre, mais qui apportait beaucoup plus difficilement le nom de Hugo que Jean, était un bon peintre impressionniste. Et Jean Hugo a tourné le dos radicalement à l'impressionnisme. Et d'autant que, en épousant Valentine, il a rencontré les surréalistes et il a vécu dans un milieu parisien très cultivé, et où justement l'impressionnisme était passé de mode. C'était quelque chose qui était complètement derrière eux. Alors que pourtant Jean Hugo aimait beaucoup Bonnard, qui a continué, qui est resté fidèle à l'impressionnisme jusqu'à la fin de sa vie.
Mais lorsqu'il dit, Jean Hugo, le paysage n'est qu'un prétexte pour la couleur, au fond, est-ce que c'est aussi votre méthode?
Alors quand il dit ça, c'est pour répondre à une question. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai dans le fond, parce que le goût que Jean Hugo avait de la nature est une chose qui a envahi complètement son travail. À la fin de sa vie, il était un peu à la quête du sujet. Il ne bougeait plus beaucoup de son mas, il était fort vieux, c'était difficile, il ne conduisait plus sa voiture, et donc il a peint les natures mortes. Mais le paysage a joué un très grand rôle. Et alors, ce qui est merveilleux dans son œuvre, c'est qu'il a fait de toutes petites gouaches, qui sont grandes comme une carte de visite, et qui néanmoins sont absolument monumentales. Si on les photographie et si on les projette sur un mur, elles occupent le mur comme une fresque du Moyen-Âge, avec une solidité très très grande. C'est pas pour rien que Jean Hugo a tout de même fasciné Picasso, qui était son contraire absolu.
Mais vous, par exemple, Vincent Biolès, on sait bien que beaucoup de vos toiles portent des noms très reconnaissables de lieux. Vous parlez de l'Étang d'Or, il y a les fenêtres, les places d'Aix. Il y a beaucoup de tableaux que l'on... Du coup, on les regarde avec l'impression de voir le paysage. Et en même temps, à l'intérieur de la toile, il y a souvent des assemblages de couleurs de façon géométrique. Il n'y aurait pas le titre. Au fond, on ne penserait pas au paysage. C'est intéressant peut-être, de lier les deux choses.
Peut-être parce que le séjour que j'ai fait dans l'abstraction a continué longtemps d'exercer non seulement son pouvoir, mais sa fonction dans l'organisation de la surface. Alors, l'exposition de Montpellier, le choix des tableaux a été fait par Michel Hilaire et Stanislas Collodi à partir de la documentation que je leur ai fournie. Mais j'ai peint beaucoup de séries de tableaux. Par exemple, j'ai peint une douzaine de places d'Aix, puis ensuite j'ai peint des intérieurs dans ma maison, une douzaine de tableaux. Ensuite j'ai peint 12 paysages à Marseille, j'ai fait 12 portraits, j'ai fait 12 nus, etc. Et si on avait montré toutes ces séries, il aurait fallu totalement décrocher le musée Fabre en entier. Ce qui n'était pas recommandable. Et donc, des choix ont été faits, et effectivement, ces choix accentuent la remarque que vous venez de faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, le sujet, lorsqu'on regarde par exemple un paysage que j'ai peint à Marseille qui s'appelle le Mistral, eh bien au fond, il est très proche dans sa dynamique d'un tableau abstrait que j'ai peint en 75 et qui est aujourd'hui, qui a été prêté par l'ambassade de France de Bruxelles, et dans lequel et ces tableaux, tout d'un coup, je les ai découverts comme deux frères et sœurs. Et au fond, comme si le sujet disparaissait, justement.
C'est intéressant ce mélange qui est permanent, abstraction, figuration, et qui séduit et déconcerte parfois celui qui regarde. On va écouter Bruno Maton, qui est lui-même peintre et critique d'art et que vous connaissez bien, je crois, qui parle en décrivant certains de vos tableaux et qui exprime justement cette vibration qu'il y a à travers la toile.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les moments de passage. Alors, justement, ce sont deux toiles qui sont entre les deux, c'est-à-dire le géométrisme, je dirais, fanatique de l'époque de support surface, qui tout d'un coup est en train de se défaire. Il reste encore des compositions comme ça, dont les figures, si on peut dire, sont à caractère géométrique, mais brusquement, dans la matière même de la peinture, apparaît une vibration, et même parfois une autre couleur. J'ai deux tableaux là devant moi, un qui est divisé en deux, il y a juste une bande non peinte en bas, mais c'est d'un très beau jaune et d'un très beau vert, un peu justement véronèse, qui rappellerait un peu la mer Méditerranée, et dans lequel il y a un mouvement légèrement ocre ou brun. Et déjà, la fissure se fait au milieu du tableau. Il en est de même pour un autre tableau qui date lui aussi de 72-73, bleu et rose avec une ligne verte, qui pourrait faire penser qu'il s'agit d'un appui de fenêtre brusquement, et peu à peu, ce tableau devient lui-même une fenêtre. Et puis, Vincent Biolès ouvre la fenêtre, et à ce moment-là, apparaît autre chose, c'est-à-dire la peinture change complètement de nature.
Philippe Dagen, dont je parlais tout à l'heure, il a une jolie expression pour ces toiles-là. Il dit « c'est Mondrian à l'école de Dufy ». Est-ce que ça vous
convient? Ça m'amuse beaucoup.
Oui, c'est joli.
Ça me plaît beaucoup. J'aurais aimé pouvoir dire cette chose-là du premier coup, moi-même. Alors, la question, c'est que pendant tout le XXe siècle, et une grande partie de l'époque à laquelle nous appartenons, les peintres se définissent généralement par une formule très simple. On dit un tel fait ceci, un tel fait cela, et tous les tableaux se ressemblent. Et si on rue un peu dans les brancards, on désarçonne les gens. Alors cela ne m'a pas rendu la vie facile pour autant. Ça m'a rendu ma vie intérieure facile, parce que ça m'a réconcilié avec mon caractère, avec ce que j'aime dans l'existence. Mais par contre, ça m'a valu pas mal de difficultés relationnelles avec le monde de l'art, le monde du marché, le monde des institutions, parce que je ne correspondais pas, si vous voulez, je n'étais pas formaté comme on l'aurait désiré. Mais tout se paie exactement, vous savez.
Oui. Et tous gagnent aussi, je pense que vous y avez gagné.
Ah ben j'ai gagné dans la mesure où j'ai gagné ce qu'il y a de très important, c'est être réconcilié avec soi-même.
In a sentimental mood. can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my paradise complete. Rose petals seem to fall. It's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentimental me.
Je ne crois pas beaucoup au phénomène d'actualité en art. Je n'ai jamais cru à la division abstraction-figuration. Je n'ai jamais cru non plus à la division peinture, fin de la peinture, retour à la peinture. La fréquentation des ateliers m'a permis de constater que ce qui fonctionnait dans le discours sur l'art ne fonctionnait jamais ou que très rarement dans les ateliers. Ou lorsqu'on le voyait fonctionner dans les ateliers, c'était toujours un peu désastreux. Ça n'était pas le meilleur qu'on voyait là dans les ateliers. Donc si vous voulez, cette division abstraction-figuration, elle ne m'a jamais paru convaincante et je ne l'ai jamais vue effectivement fonctionner. Je me souviens, il y a un certain nombre d'années, à l'époque, la figuration était assez mal vue dans les ateliers, dans les galeries et dans le discours sur l'art. Et je me souviens avoir présenté la première exposition d'un peintre français qui s'appelait Bioulès chez Daniel Templon. Et le cahier qui est à l'entrée de la galerie manifestait une réaction extrêmement violente à cette peinture qui était la première fois d'ailleurs que la galerie Templon présentait de la peinture figurative. Bioulès venait de passer de l'abstrait au figuratif et il ne venait pas vraiment de passer de l'abstrait au figuratif puisqu'il faisait à la fois de la peinture abstraite et de la peinture figurative depuis des années. Mais il montrait pour la première fois ce qu'il faisait en peinture figurative. Et on trouvait dans le cahier de sur des signatures que je ne citerai pas aujourd'hui, voilà un bel exemple de peinture réactionnaire et pseudo-fasciste, etc.
Eh bien, c'est Marcelin Plénet qui se souvenait en 86 cette exposition chez Templon après que vous ayez quitté Support Surface, Vincent Bioulès. C'est vrai, vous disiez tout à l'heure, juste avant qu'Ella Fitzgerald nous enchante de sa belle voix, que vous l'aviez de temps en temps payé cher. C'est vrai que quand il évoque ses réactions dans le milieu de l'art, c'était d'une violence incroyable.
Très grande. Mais il faut dire aussi que c'était une époque où tout était encore politisé. Et le groupe Support Surface, ce qui l'a fait éclater d'ailleurs, c'est d'avoir associé d'une manière radicale des intentions politiques, des partis pris politiques avec des choix de peinture. Alors, d'un côté, la peinture qui nous influençait, venait de l'Ouest, c'était la peinture américaine, et la pensée qui nous influençait venait de l'Est. Donc c'était une sorte de guerre froide interne, étrange, quand on y réfléchit bien. Et alors, dire aujourd'hui, comme vient de le dire Pleney, qu'on ait pu écrire d'un tableau figuratif qu'il était néofasciste, c'est quelque chose qui n'est plus compréhensible aujourd'hui. Et quand on réfléchit bien à ce qui a été écrit à ce moment-là, certains de mes camarades ont pensé vraiment avec beaucoup de sincérité que agir sur la peinture en la démontant, en montrant ce qu'elle pouvait avoir de complètement matérialiste, en tant qu'à la fois comme technique et comme savoir-faire, comme application, on pouvait avoir une influence sur les infrastructures économiques. Il faut une très très grande dose quand même de j'allais dire, de pureté de cœur et de naïveté pour croire des choses comme ça, parce que si l'on peut dire qu'on a bien raté le coche, c'est bien à ce sujet-là. Donc, mais c'était dans l'air du temps. Et les gens qui faisaient au contraire de la figuration narrative pensaient aussi la même chose. La figuration narrative était une figuration de combat, de polémique. Et ça, c'est un climat qui a totalement disparu, alors qui peut être regrettable, parce que nous avons été, j'allais dire, heureux dans ce contexte-là, parce que tout était simple, au fond. Puisqu'on savait comment il fallait penser. Il y avait une... Et au fond, nous avons pu faire une peinture de bien-pensant. Et ça, c'est quand même une chose que j'ai voulu éviter à un moment donné. Et alors, ce qui m'a beaucoup frappé, lors d'une fort belle exposition organisée à Nîmes par Romain Mathieu au Carré d'Art en décembre dernier, c'est de voir une sorte de rétrospective support surface, c'est que c'était un art complètement français et de très grand goût. C'était d'une élégance magnifique. Et j'allais dire, avec une sorte de préciosité distante, qui caractérise l'art français, un savoir-faire maîtrisé, qui apparaissait tout à fait, et qui était à 1 milliard d'années de lumière de ce que cet art avait voulu proposer. C'est étrange.
Mais vous, Vincent Biolès, de cette époque-là, cette époque de l'abstraction pure et dure de support surface, de cette pensée politique, il vous est resté forcément quelque chose que vous utilisez tous les jours. Qu'est-ce que c'est, ce goût de l'équilibre, du découpage du tableau, de l'emploi de la couleur?
Ah ben, j'allais dire, beaucoup de gens m'ont pris pour un rigolo, mais c'est le sérieux qui est resté. Parce que nous avons toujours voulu, alors, peindre d'une façon très sérieuse et très engagée. Et des camarades dont je me suis détaché et dont je ne partage plus les préoccupations demeurent à mes yeux des artistes tout à fait respectables à cause de cette dimension-là. Il y a eu, c'est Baudelaire qui a dit de la peinture, c'est de la morale mise en forme. Et alors la morale, par contre, peut avoir de multiples visages. Et la morale du groupe Support Surface était un peu univoque, il faut en convenir.
Vincent Biolès, j'ai vu des photos de vous avec votre petit atelier portatif quand vous partez sur les chemins de Camargue vers Carnon, le Gros-du-Roi.
J'adore faire ça.
Voilà, avec cette petite voiture transformée en atelier.
Que vous Monsieur avez, Hulot voilà. Ou Madame Royale mettraient à la poubelle.
Non, elle est tout à fait nécessaire parce qu'en plus, elle vous permet... pas forcément d'en sortir une inspiration nouvelle, parce qu'au fond, l'inspiration, elle est là. Enfin, vous avez tous ces paysages aimés, vous les avez en tête. Est-ce que c'est, j'allais dire, le besoin de satisfaire à votre goût pour la contemplation?
Oui, certes. Et aller, j'aime énormément aller dans la campagne, parce que enfant, j'allais passer des vacances avec de vieilles tantes, dans un château perdu, dans le Var, chez ma marraine, et j'ai goûté là les délices de la solitude consentie, et qui m'a permis de ne jamais m'ennuyer, parce que sans ça, je serais parti tout de suite, je serais fichu le camp, j'aurais fait du stop, je me serais évadé. Mais cette solitude consentie m'a permis de développer mon imagination, et dans laquelle la contemplation a une très très large part. Et cet exercice au fond spirituel et intérieur permet de se découvrir soi-même, et ce qui permet ensuite d'essayer d'être fidèle à ce que l'on a découvert. Alors ensuite, ces balades que je fais à ma voiture me replongent toujours dans une expérience extraordinaire, c'est de croire que ce que l'on voit existe vraiment. Non, il faut le dessiner pour le faire exister. Alors d'un côté, on est complètement subjugué par un paysage, on dit tiens, je vais le peindre, il me plaît beaucoup. Et puis quand on commence, on ne voit plus rien. Il y a une sorte de chape d'aveuglement qui nous tombe dessus, et il faut, avec les outils du peintre, avec justement ces figures grammaticales et syntaxiques qui sont liées à notre métier, faire apparaître à nouveau ce qui nous avait séduit, mais qui s'est soudainement dérobé.
Le dessin, au départ, pour vous, c'est le départ toujours.
Ah oui. Alors j'aurais beaucoup, je dis ça en plaisantant, mais j'aurais aimé vivre, moi, j'allais dans l'atelier de Verrocchio, et à 12 ans, j'aurais balayé, j'aurais allumé le poêle, mais j'aurais beaucoup dessiné. Et j'ai essayé à un moment donné, j'ai fait ce que j'ai appelé un peu prétentieusement une cure de dessin, mais je suis très fier parce que un de mes anciens élèves, qui est un bon peintre aujourd'hui, se souvient des cours béton de dessin de Goulet. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé d'enseigner le dessin et de l'enseigner à moi-même.
Il y a aussi autre chose qui est indispensable à votre création, j'allais dire même à votre vie, à votre équilibre personnel, Vincent Biolès, c'est la musique. Vous en faites toujours tous les matins. On va écouter Samson François parler de Debussy. Et il le voit en couleur, comme vous.
Pour moi, vous savez, Debussy représente avant tout le premier musicien qui fait de la musique en couleur, si je peux dire. Jusque-là, c'était du noir et blanc, plus ou moins nuancé, mais là, nous avons vraiment affaire à de la couleur. Sur le plan des images, Les Joyeuses m'évoquent effectivement quelque chose d'assez spécifique. Plusieurs choses, même. D'une part, l'embarquement pour citer le bateau, et aussi l'invitation au voyage de Baudelaire. Ça n'a peut-être aucun rapport, peut-être que Debussy n'y a pas du tout pensé, mais ça, irrésistiblement, ça m'évoque à cette peinture et ce poème. D'autre part, je vous dis, ça m'évoque la couleur, n'est-ce pas, un foisonnement de couleurs que je ne pense pas que dans la musique romantique était aussi défini. Je crois qu'il faut se défendre d'enfermer Debussy en le confondant avec les impressionnistes comme Claude Monet, enfin toute cette époque. Cette époque-là, il a certainement dû être influencé par les impressionnistes, et d'ailleurs il vivait à leur époque, mais à mon avis, il était beaucoup plus en avance que cette école-là.
Vous faites toujours de la musique, tous les jours, Vincent Biolès?
Si vous regardiez mes mains, j'ai de l'arthrose, ça m'est de plus en plus difficile. Mais demain soir, ma femme a organisé, sans me le demander, une séance de musique, où il va falloir que je tienne mon rang, donc je sais que je vais avoir 2 heures de travail en plus pour pouvoir tenir ma partie.
Enfin, en écoutant cette archive de Samson François, je me suis dit, mais au fond, je vais voir sur les tableaux. Alors, il y en a beaucoup de
vous savez que j'ai eu la chance de le rencontrer.
C'est vrai.
Il est venu dormir chez mes parents au moment des JMF, des Jeunesses Musicales de France, et ma mère avait recousu les boutons de son habit. Et je devais avoir une douzaine d'années. J'écoutais dans la chapelle où mon père était... dont mon père était le cantor, de la musique de Palestrina ou de Vittoria, et j'allais dire, je n'avais pas d'affinité pour cette musique, c'est bien plus tard que j'en ai reconnu la beauté. Et lorsque j'ai entendu Samson François jouer les préludes de Debussy, à 12 ans, j'ai compris que c'était de la musique pour les peintres.
Et bien voilà, de la musique, de la peinture. Nous y sommes dans cette exposition formidable qu'organise le très très beau musée Fabre à Montpellier. Allez-y, il vous reste encore quelques jours de vacances si vous êtes dans la région, ou pour ceux qui y habitent à mon avis, ils y sont déjà allés. Ça s'appelle Vincent Biolès, Chemin de Traverse. Pour ceux qui n'auraient pas l'occasion d'y aller, le catalogue édité par le musée Fabre est également magnifique. Merci à vous Vincent Biolès, je vous libère, repartez vers
votre
beau
accueil.
Pays plein de
Et
lumière.
Je vais faire un petit tour dans Paris quand même avant de repartir.
Voilà. Bon retour chez vous.
Merci.
Au revoir.